terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Et oui, voilà, on se met dans l'ambiance. Vous êtes toujours à l'écho des programmes de Do Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Ravi de vous retrouver, Michel. Bonjour.
Bonjour, Joël.
Allez, vous allez attaquer, façon de parler, hein, bien sûr, votre 127e chronique astro. Michel, on rappellera, hein, sur le site constellationsetgalaxies.org, tout est archivé. Et là, vous allez commencer, bien sûr, par nous parler d'actualité et notamment des nouvelles du programme lunaire américain.
Voilà, il y a une quinzaine de jours, le 13 octobre dernier, SpaceX a réussi le 11e test de son vaisseau Starship. Je rappelle à nos auditeurs que nous parlons de la plus grande fusée jamais construite par l'homme, car avec le vaisseau Starship d'environ 50 mètres posé sur son premier étage Super Heavy de 71 mètres, l'ensemble de plus de 120 mètres dépasse la Saturne V des missions lunaires Apollo, en taille et aussi en masse, avec plus de 5000 tonnes au décollage. On se souvient qu'après une progression satisfaisante pendant 6 mois des essais jusqu'au 6e de novembre 2024, conforme à la méthode de développement itératif de la société d'Elon Musk, consistant à améliorer progressivement le vaisseau au fil des tests, le passage à une nouvelle version pour le 7e tir de janvier 2025 a marqué le début d'une série d'échecs, se soldant tous par l'explosion du Starship et même une destruction lors d'un test au sol le 18 juin dernier. Cette série noire semble s'être terminée avec le 10e essai du 27 août. Ce nouveau test réussi d'octobre n'apporte rien de particulier, car il est très similaire au précédent, avec les deux étages finissant détruits par un amerrissage contrôlé, aucun n'étant prévu de revenir en douceur sur le pas de tir pour être récupéré par les bras de la tour de lancement, manœuvre pourtant réussie plusieurs fois, je crois trois fois, par le premier étage Super Heavy. Le Starship n'a encore effectué qu'un vol suborbital de la côte est américaine jusqu'à l'océan Indien, atteignant une altitude maximum de 190 km environ. Autant dire qu'on est toujours loin d'une mission lunaire et les retards de mise au point de cet engin obèrent gravement la suite du programme Artemis de la NASA, car c'est un Starship qui doit poser les astronautes d'Artemis 3 sur la Lune, théoriquement fin 2027, mais il lui faudra franchir encore bien des étapes avant d'y parvenir, comme le ravitaillement en carburant dans l'espace, indispensable pour lui faire atteindre la Lune, opération qui n'a jamais été tentée auparavant depuis le début de l'ère astronautique. Ensuite, il faudra au moins réussir un alunissage en douceur et un redécollage à vide avant d'oser risquer la vie d'un équipage dans ces manœuvres délicates. Il semblerait que pour le prochain essai, SpaceX prévoit un véritable vol orbital pour le Starship, c'est-à-dire au moins un tour complet de la Terre, et envisage un retour en douceur sur le pas de tir pour être récupéré et recyclé. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais cet essai doit inaugurer une nouvelle version V3 du vaisseau, ainsi que des nouveaux moteurs Raptor 3 pour le Super Heavy. Or, c'est justement le passage à la version 2 qui avait valu la série d'échecs du premier semestre. Espérons que cette fois, les évolutions technologiques ne signeront pas l'apparition de nouvelles difficultés.
Mais de son côté, la NASA poursuit son programme lunaire, Michel.
Effectivement, et ce malgré les restrictions de budget imposées par l'administration Trump et les effets délétères du fameux shutdown fédéral, la mise au ralenti de l'administration en raison de l'absence d'un budget voté par le Congrès, conduisant sans délai à la suspension et l'abandon de projets et le licenciement de milliers de fonctionnaires. À titre d'illustration, je peux donner un petit exemple très concret. Je cite souvent ici le site de l'APOD, Astronomy Picture of the Day, qui, comme son nom l'indique, image astronomique du jour en français, publie quotidiennement une image astronomique qui peut provenir aussi bien d'amateurs que de grands observatoires ou de missions spatiales, avec une courte explication d'un astrophysicien. Eh bien, l'APEUD est restée bloquée sur l'image du 1er octobre, en raison d'un manque de financement du gouvernement fédéral, comme indiqué par un court avertissement en haut de la page. Même si les déboires de nos institutions politiques rendent très compliqué le vote d'un budget 2026 pour l'État français, on est quand même loin des conséquences radicales que ce genre de blocage provoque outre-Atlantique. Mais revenons au programme Artemis de la NASA qui continue malgré tout, car l'objectif de la Lune et au-delà de Mars ont été privilégiés par Trump et son ex-acolyte Musk, contrairement à d'autres missions de l'agence américaine comme la surveillance de la Terre et du réchauffement climatique, en passant par la mission de retour d'échantillons du sol martien et autres lancements d'un télescope spatial complètement construit et déjà prêt. Si c'est le Starship qui doit transporter les astronautes pour la dernière étape de leur voyage lunaire, un aller-retour depuis la station Lunar Gateway jusqu'au sol, c'est avec un lanceur développé par la NASA qu'ils doivent quitter la Terre et aller jusqu'à l'orbite lunaire. Le SLS, Space Launch System, un lanceur lourd assez comparable en taille au Saturn V du programme Apollo des années 70, propulsant la capsule Orion, analogue aux Apollo, sauf qu'elle peut accueillir jusqu'à 4 astronautes au lieu de 3, et dont je rappelle que le module de service, qui assure propulsion et support de vie pour l'équipage, est construit par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, dans le cadre d'un partenariat avec la NASA. Depuis plusieurs mois, la fusée est en cours de préparation pour la mission Artemis 2, qui doit emporter des astronautes jusqu'à l'orbite de la Lune avant de les ramener sur Terre, une mission analogue à Apollo 8 de décembre 1968. Ce sera la première fois, depuis 1972, la dernière mission Apollo 17, que des humains s'éloigneront assez de notre planète pour la voir en entier, et pas seulement la courbure de sa surface, comme les passagers de l'ISS par exemple, en déplaise aux platistes. On a appris il y a une dizaine de jours que dans l'énorme bâtiment d'assemblage VAB du Centre Spatial Kennedy en Floride, où les Saturn V étaient aussi assemblés, le vaisseau Orion a été installé au sommet du lanceur. Cette nouvelle a été l'occasion pour la NASA de faire une annonce inattendue, car l'avancement de ce montage étant en avance sur son planning, le tir d'Artemis 2 prévu en avril 2026 pourrait être avancé de 2 mois, profitant d'une fenêtre favorable qui débutera le 5 février. Donc, peut-être un équipage en orbite autour de la Lune en février prochain. Ce sera quand même plus de 53 ans après Apollo 17.
Un satellite qui fait le plein avant de prendre la route.
Alors en effet, il s'agit du satellite Sentinel 1D développé par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, dans le cadre de son programme Copernicus d'observation de la Terre. Il doit être lancé la semaine prochaine, mardi 4 novembre, par une fusée Ariane 6 depuis la base de Kourou en Guyane. Et avant ce lancement, il doit faire le plein de carburant, une étape délicate qui vient d'être réalisée sur la base des employés de Thales Alenia Space Italy et, j'invite les auditeurs à aller la voir, sur les photos, notamment sur le site de Ciel et Espace. On voit que ce n'est pas une opération de routine car les opérateurs portent des combinaisons qui semblent celles d'astronautes prêts à partir dans l'espace. Quand on pense au lancement de satellites, on imagine souvent qu'ils sont inertes et sont propulsés sur leur orbite de manière purement balistique par leur lanceur. En réalité, ils possèdent leur propre moteur afin de réaliser des manœuvres pour se positionner correctement par rapport à leur zone d'étude ou de communication, voire pour éviter les collisions avec d'autres objets en orbite, satellites actifs ou débris spatiaux, et même pour certains afin de réaliser la phase finale pour rejoindre leur orbite. Ces moteurs doivent fonctionner dans le vide spatial et sont donc très différents des moteurs des lanceurs qui traversent l'atmosphère. Comme beaucoup, ceux de Sentinel 1D utilisent de l'hydrazine. Ce carburant est un produit hautement toxique et explosif, ce qui explique les précautions extrêmes prises lors de sa manipulation et les combinaisons sophistiquées que doivent revêtir les opérateurs.
Alors après ces nouvelles du domaine astronautique, si vous voulez bien, revenons à l'astronomie avec une nouvelle théorie concernant la formation de la planète Mercure.
Alors cette nouvelle théorie a été exposée dans un article publié récemment dans la revue Nature Astronomy par une équipe de l'université Paris-Cité, dirigée par Patrick Franco. Mais avant de la résumer, je vais commencer par faire un petit tour du paysage, si je peux dire, du système solaire tel que nous le connaissons. Nos auditeurs savent certainement qu'il existe 2 types de planètes, avec 4 planètes rocheuses ou telluriques, les plus proches du Soleil, et 4 planètes géantes gazeuses qui possèdent certainement des noyaux semblables aux planètes rocheuses, mais bien difficiles à étudier car englouties sous des milliers de kilomètres d'atmosphère très épaisse, les gaz constituant plus de 80% de la masse de ces planètes. Du point de vue géologique, les planètes telluriques sont assez semblables, malgré leurs différences de taille. La Terre et Vénus quasiment égales, Mars deux fois plus petite en diamètre, et Mercure encore plus petite, même pas deux fois notre Lune. Sous une croûte dure plus ou moins épaisse, car plus une planète est grosse, plus elle est lente à se refroidir, elle possède tout un manteau plus ou moins pâteux ou liquide, et en leur centre un noyau très dense, car sous l'effet de la gravité, les éléments les plus lourds, comme le fer et le nickel, ont migré vers le centre. C'est là que Mercure se distingue de ses sœurs. Il me faut rappeler que cette planète est assez mal connue, car très peu de missions spatiales ont pu l'étudier, parce qu'elle est difficile à atteindre en raison de sa proximité du Soleil. Il y a eu la sonde américaine Mariner 10, lancée en 1973, qui est restée environ 2 ans en orbite. Messenger, aussi de la NASA, lancée en 2004, qui a étudié la planète 4 ans, de 2011 à 2015, et la double mission européenne et nippone BepiColombo, Colombo, dont j'ai déjà parlé ici, n'est encore que sur son trajet vers Mercure, qu'elle n'atteindra qu'en fin d'année prochaine. Parmi les résultats des 2 missions spatiales américaines, il y en a un surprenant, car les mesures ont permis d'estimer que le noyau de Mercure représente environ 70% de sa masse, ce qui est énorme par rapport aux 3 autres planètes rocheuses où c'est environ 30%. Cet écart est difficile à expliquer car nos théories actuelles, issues de l'étude du système solaire, mais aussi d'autres systèmes planétaires en cours de formation, veulent que les planètes se soient formées dans le nuage protoplanétaire qui orbitait autour du jeune Soleil il y a environ 4,5 milliards d'années, donc avec la même proportion d'éléments constitutifs. Dès la fin des années 80, on a pensé, en particulier Willy Benz, directeur de l'Institut de physique de l'Université de Berne en Suisse, que cette différence pourrait s'expliquer par une collision ayant arraché à Mercure une partie de son enveloppe externe, changeant ainsi la proportion que représentait son noyau, initialement analogue aux autres planètes. On sait aujourd'hui qu'aux premiers âges du système solaire se sont formés par agrégation de nombreux planétésimaux, c'est-à-dire de petites protoplanètes, parfois de la taille de Mercure ou Mars, dont les orbites chaotiques ont pu produire de nombreuses collisions, comme celle qui a dû donner naissance à notre Lune en percutant la Terre. C'est sur cette hypothèse qu'a travaillé l'équipe parisienne en réalisant de nombreuses simulations informatiques de tels chocs en faisant varier tous les paramètres comme la taille des corps, la vitesse et l'angle du choc. Parmi tous les scénarios étudiés, ce serait la collision rasante de 2 protoplanètes de taille analogue qui peut produire l'arrachage de l'enveloppe extérieure de l'une d'elles, laissant Mercure avec un noyau disproportionné par rapport à sa taille. Encore un indice montrant que l'histoire du système solaire n'a rien d'un long fleuve tranquille, avec des collisions, des planètes géantes qui migrent en désorganisant les orbites des petits corps et provoquant un bombardement intense des planètes intérieures par des astéroïdes.
Et encore aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'un astéroïde venant percuter la Terre en produisant une catastrophe à l'échelle d'une région, d'un continent, voire de la planète entière.
Effectivement, le choc d'un gros astéroïde est l'une des menaces naturelles les plus graves pour la survie de l'espèce humaine. Après, bien sûr, toutes les catastrophes que nous pouvons provoquer tout seuls, comme une guerre nucléaire, le réchauffement climatique global avec son cortège de bouleversements météorologiques et de migrations massives de populations, la destruction rapide de la biodiversité, la pollution des eaux, la dégradation des terres arables, etc. Mais comme le risque d'un impact reste une menace mortelle, comme pour les dinosaures il y a 65 millions d'années, les astronomes essaient de détecter le plus tôt possible les astéroïdes géocroiseurs susceptibles de nous percuter un jour, et les agences spatiales réfléchissent aux possibilités d'éviter une telle catastrophe. Nos auditeurs se souviennent peut-être de la mission américaine DART, dont j'avais parlé ici, qui consistait à projeter un petit vaisseau à grande vitesse contre un petit astéroïde pour voir dans quelle mesure cela permettrait de le dévier. Une sorte de test à petite échelle qui a eu lieu le 26 septembre 2026. Alors là, je me suis trompé. J'ai plus la date. Je pense que ça remonte à 2 ans maintenant, 2023 plutôt. Et semble avoir donné des résultats probants selon les observations de l'astéroïde Dimorphos réalisées depuis la Terre. Mais on en saura beaucoup plus lorsque la mission européenne ERA arrivera sur place qui aura lieu en fin d'année prochaine. Voilà notre 2026. Car son lancement a malheureusement été retardé par la guerre en Ukraine et l'arrêt de la coopération spatiale avec les Russes qui devaient la lancer. Mais la Chine semble elle aussi se préparer à développer les techniques de défense spatiale, comme on l'a appris récemment d'une déclaration de... Alors je garantis pas le chinois, Wu Weren, responsable du programme lunaire chinois et scientifique en chef du laboratoire d'exploration de l'espace profond, lors d'une conférence qui a précisé les contours d'une telle mission qui avait déjà été évoquée en 2024. C'est en 2027 qu'une fusée Longue Marche lancerait un ensemble de deux sondes qui, en utilisant l'assistance gravitationnelle de Vénus, atteindrait en avril 2029 le petit astéroïde 2015 XF26, un morceau de roche estimé entre 30 et 100 mètres. La première sonde irait le percuter à grande vitesse, 10 km/s, soit 36 000 km/h, ce qui devrait le dévier de 3 à 5 cm, comme le vérifiera le second robot destiné à observer le choc et ses conséquences. Donc une mission à deux composantes, assez analogue au duo DART-ERA de la NASA et de l'ESA. Même si ces essais sont assez modestes pour le moment, ils devraient démontrer notre capacité à dévier légèrement un astéroïde dangereux, ce qui serait suffisant pour lui faire éviter la Terre si on le fait des mois avant l'impact prévu. Sans vouloir inquiéter inutilement nos auditeurs, je rappelle que la NASA estime à environ 2300 le nombre des astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre. La question n'est donc pas de savoir si une collision se produira, vu le passé chaotique de la Terre et de la Lune, mais quand elle se produira et si nous serons prêts à temps pour l'éviter.
Vous êtes toujours l'écho des programmes d'Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Nous sommes dans le cadre de notre journal en ce mercredi 29 octobre avec Michel Favret et sa chronique Astro numéro 127. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie et l'actualité, également le ciel d'automne.
Voilà, avec l'automne, je termine le cycle des saisons, commencé début janvier pour le ciel de l'hiver, puis avril pour le printemps et juillet pour l'été. Un tour que j'ai décidé de reprendre cette année avec la description du ciel trimestre après trimestre, car je n'ai fait qu'une seule fois ce tour des quatre saisons, avec leurs constellations et leurs principaux objets observés, et ça remonte à 2015.
Alors pourquoi justement le ciel est-il différent selon la saison ?
Alors pour commencer, une petite précision. Quand on parle du ciel de la saison, il s'agit du ciel qu'on voit le soir, car généralement c'est plutôt le soir qu'on observe habituellement la voûte étoilée. En ce moment, le ciel est encore partagé entre les constellations de l'été à l'ouest, qui vont progressivement se coucher, et celles de l'automne à l'est, qui montrent vers le sud, suivies par celles de l'hiver, vers 1h du matin. Donc, au fil de la nuit, on verra presque tout le ciel de toutes les saisons, excepté la région dans laquelle se trouve le soleil, dont l'éclat nous empêche de voir les étoiles. Le ciel de saison est donc celui qu'on voit en début de nuit, et il change lentement au fil des jours à cause de la mécanique céleste, le mouvement de la Terre dans l'espace. Pour la rotation de la Terre, on dit souvent qu'elle fait un tour sur elle-même en 24 heures, mais ça n'est pas exact. 24 heures, c'est la durée d'une journée, ce qui est légèrement différent. Si je regarde le Soleil à midi aujourd'hui, il est exactement au sud, et demain à midi, il en sera exactement de même. C'est une journée ou 24 heures, le temps qui s'écoule pour que, vu d'un point de la Terre, le Soleil se retrouve dans la même position. On pourrait croire que la Terre a donc fait un tour sur elle-même, mais ce n'est pas juste. Comme elle orbite autour du Soleil en un an, en 24 heures, elle s'est un peu déplacée sur son orbite, d'environ 1 degré. Et pour que nous revenions pile en face du Soleil au sud à midi, il a fallu qu'elle fasse un peu plus d'un tour pour compenser son trajet sur son orbite. Pour comprendre ce mécanisme, les auditeurs peuvent faire une expérience très simple. Ils se placent pile face à un repère, comme un arbre ou un lampadaire par exemple. Et s'ils font un tour complet sur eux-mêmes, ils se retrouveront juste en face. Mais s'ils font en plus un pas de côté vers la droite, qui correspondrait au déplacement de la Terre sur son orbite, ils doivent retourner un peu plus pour se retrouver face au repère. Si on se représente ce qui se passe en un an, comme la Terre fait un tour complet autour du Soleil, elle a donc fait un tour de plus sur elle-même que le nombre de jours. Si on divise ce tour supplémentaire, soit 24 heures pour faire simple, par les 365 jours de l'année, on s'aperçoit que l'écart est à peu près de 4 minutes par jour. La Terre met donc seulement 23 heures et 56 minutes pour faire un tour complet sur elle-même. Ce petit écart de 4 minutes fait qu'une étoile qu'on verrait ce soir pile au sud à minuit serait légèrement décalée vers l'ouest demain soir à minuit. Cette différence de 4 minutes paraît bien faible, mais cela fait 1 heure tous les 15 jours et 2 heures par mois. Et c'est ainsi que jour après jour, on verrait le ciel défiler lentement devant nous si on le regardait chaque soir exactement à la même heure. De là vient la notion de ciel de saison, pour décrire l'ensemble des constellations qu'on voit le soir côté sud, avec à chaque fois une constellation vedette qui permet de resituer toutes ses voisines. Par exemple, Orion pour l'hiver, si nos auditeurs se souviennent de la chronique de janvier, ou le fameux triangle de l'été.
Et pour l'automne ?
En automne, c'est Pégase, le cheval ailé qui se présente en ce moment dans le ciel du soir vers l'est, à mi-hauteur, comme un grand carré placé de biais, un angle en haut et l'autre en bas, et plutôt grand, environ 4 fois la largeur de la main bras tendu. À partir de l'angle situé à gauche, donc à l'est, deux lignes d'étoiles vont en s'écartant progressivement comme un angle très pointu. C'est la constellation d'Andromède. Dans la mythologie grecque, Andromède était une princesse, fille du roi Céphée et de sa reine Cassiopée, qui sont aussi tous deux dans le ciel, mais plus du côté nord, car ce sont des constellations circumpolaires. C'est-à-dire que sous nos latitudes, elles ne se couchent jamais, car tournent autour de l'étoile polaire sans jamais descendre sous l'horizon. Si on se met face au nord, donc en regardant du côté de la polaire, on repère très facilement Cassiopée, qui forme comme un grand W, dressé juste à droite de la polaire en ce moment. Son épouse, Céphée, est juste un peu plus haut. On peut se le représenter comme une petite maison dessinée par un enfant, un petit triangle pour le toit, au-dessus d'un carré pour la maison. Mais en automne, la figure est pratiquement à l'envers, pointe du toit en bas, presque juste au-dessus de la polaire. Je vous parle de ces quatre constellations car elles nous racontent une histoire, la légende d'Andromède et de Persée. En effet, les Grecs qui nous ont inventé la plupart des constellations permettant de se repérer dans le ciel pensaient que le ciel était le domaine des dieux. Donc ils ont logiquement essayé de faire correspondre les dessins qu'ils croyaient voir dans les étoiles de la voûte céleste avec les personnages de leur mythologie, dieux, déesses, héros, rois, reines, et agencés de telle manière qu'elles nous racontent leur légende, un peu comme s'ils avaient transformé le ciel en un grand livre d'images. Pour la légende d'Andromède, il nous manque encore deux figures, Persée et la baleine. À leur époque, c'était un monstre marin, Kaitos ou Cetus en latin, qui nous a donné le mot cétacé, et qui est devenu baleine par une influence chrétienne, l'histoire de Jonas. Comme il est difficile de les expliquer à la radio, je vous invite à aller plutôt voir la carte du ciel disponible sur notre site, je rappelle, www.constellationsetgalaxies.org. À la rubrique « Le ciel du mois ». Juste deux indications. Persée est située sous Cassiopée dans le ciel d'automne. Et entre les deux, on peut distinguer, dans un ciel bien noir, une zone un peu floue. Ce sont deux amas d'étoiles qu'on peut facilement observer dans de simples jumelles. Pour la baleine, elle est située sous Pégase, car celui-ci est représenté lors de sa naissance, jaillissant de la mer. Et toute la région du ciel située dessous correspond à des constellations de l'eau, comme les poissons et la baleine, qui en ce moment n'est pas complètement levée en tout début nuit et ne le sera que vers 20 heures.
Alors maintenant que nous avons listé tous les personnages dans le ciel, que dit la légende ?
Cassiopée, qui était une femme très belle, vantait sans arrêt la beauté de sa fille, qui était encore plus jolie qu'elle, en prétendant qu'elle égalait les Néréides, ce qui a fâché leur père, Poséidon, le Neptune des Romains. Pour se venger, il envoya le monstre marin détruire tous les ports du royaume de Céphée, qui correspond aujourd'hui à l'Éthiopie. Selon un oracle, le seul moyen de l'arrêter était de lui livrer Andromède en sacrifice. C'est pour cela qu'on la voit souvent représentée sur des peintures, enchaînée à un rocher face à la mer, attendant que le monstre vienne la dévorer. Mais heureusement pour elle, le héros Persée est tombé immédiatement amoureux d'elle au premier regard, un vrai coup de foudre, et obtient de Céphée qui lui donne la main de sa fille s'il arrive à la sauver. Le roi accepte car il n'a aucune chance de vaincre le monstre. Mais le héros possède une arme secrète. Il revient de l'île où résident les Gorgones, et surtout la plus terrible, la Méduse, qu'on représente souvent horrible, couverte d'écailles et les cheveux remplacés par des serpents. Elle a le pouvoir de pétrifier, c'est-à-dire littéralement de changer en pierre tout être qui jette un seul regard sur elle. Mais Persée, fils illégitime de Zeus, a été chargé de l'éliminer. Par ruse, en utilisant un bouclier bien poli comme miroir, Persée arrive à la tuer et à couper sa tête pour la mettre dans un sac sans jamais la regarder directement. Le sang de la plaie coule jusqu'à la mer, où le mélange donne naissance à Pégase, le cheval ailé, qui va permettre à Persée de rejoindre Andromède. Alors qu'elle est enchaînée au rocher et que le monstre marin jaillit des flots pour la dévorer, il sort du sac la tête coupée de la méduse en face du monstre, qui en la regardant se trouve changée en pierre et coule au fond de la mer. Andromède est sauvée et il peut l'épouser. et je suppose qu'ils eurent beaucoup d'enfants, mais je ne connais pas la suite de l'histoire.
Et cette légende nous est contée dans le ciel par les étoiles qui dessinent les constellations.
Oui, et c'est l'exemple le plus démonstratif, puisque le ciel de l'automne met en scène 6 constellations pour nous présenter cette légende. Mais quand on apprend à connaître le ciel, on découvre saison après saison que d'autres histoires y sont également illustrées. Ce sont celles des Grecs qui ont inspiré notre vision de la voûte étoilée. Mais il faut savoir que dans toutes les civilisations, par exemple arabes, hindous, chinoises ou incas, on a associé les étoiles du ciel aux légendes les plus importantes, avec des dessins de constellations complètement différents. Par exemple, on trouve un renard et un lama chez les Incas, une gazelle chez les Arabes, etc. Le ciel est comme un grand livre ouvert qui nous raconte toutes ces légendes de toutes ces civilisations si on sait les lire. Les hommes ont toujours voulu conserver leur culture, leurs croyances, dans ce qu'il y avait de plus immuable dans tout leur environnement, le ciel étoilé. Pour finir, une vision un peu plus moderne du ciel de l'automne. Il contient de nombreuses galaxies, c'est-à-dire un regroupement de centaines de milliards d'étoiles comme notre Soleil. C'est un phénomène saisonnier. En été, notre propre galaxie, la Voie lactée, occupe une grande partie du ciel en formant comme des nuages laiteux. Et c'est aussi le cas en hiver, même si c'est moins évident, car on regarde alors vers l'extérieur, où les étoiles sont moins nombreuses, qu'en été où notre regard est dirigé vers le centre, bien plus dense. Du coup, notre vision est limitée par les étoiles et nébuleuses à seulement, si j'ose dire, quelques centaines ou milliers d'années-lumière. Pas assez loin pour voir les galaxies situées, elles, à des millions d'années-lumière, et qui restent donc masquées à notre vue. Par contre, elles se révèlent en automne et au printemps, quand la Voie lactée n'est plus aussi prééminente dans le ciel. Et c'est dans Andromède que l'on peut apercevoir la plus grosse galaxie de notre ciel, la grande galaxie dite d'Andromède, qui est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, dans un ciel bien noir, à 2,5 millions d'années-lumière de nous. C'est-à-dire que la lumière qui pénètre le soir dans notre œil, quand on la regarde, est partie de là-bas il y a 2,5 millions d'années, quand les hominidés étaient encore en train de chasser dans la savane africaine. Pour la trouver, c'est très simple. On repart du carré dessiné par Pégase et on suit sa diagonale, qui est pratiquement à l'horizontale en cette saison, vers l'est, donc vers la gauche, dans Andromède. La première étoile qu'on rencontre est un peu plus basse, décalée, mais la suivante, Mirac, est presque dans le prolongement de la diagonale de Pégase. C'est elle qui sert de base pour le repérage. On tourne à angle droit vers le haut pour trouver une étoile plus faible, puis une seconde, un peu plus haute, et on aperçoit alors à côté le petit ovale flou de la galaxie. On peut la raccorder aussi avec des jumelles pour voir une belle ellipse nébuleuse au milieu des étoiles. En réalité, nos yeux ne sont pas assez sensibles pour la voir dans son entier, même dans un télescope, et on ne perçoit que la partie centrale, plus brillante, car avec une plus grande concentration d'étoiles. Si on la voyait en entier, comme sur les photos, elle serait énorme dans le ciel. Elle est longue comme 4 fois la pleine lune. On dit souvent que les galaxies s'éloignent les unes des autres en raison de l'expansion de l'univers, ce qui est vrai à grande échelle, mais pas localement. Quand 2 grandes galaxies, comme notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède qui est 50% plus grosse, ne sont pas trop éloignées, c'est la gravité qui joue, et en s'attirant mutuellement, elles se rapprochent. On prévoit même leur collision, mais pas de panique, ce sera dans environ 4 milliards d'années. Et ce ne sera pas une catastrophe, car les distances entre les étoiles sont tellement énormes que les deux galaxies se mélangent, un peu comme 2 nuages de gaz, les galaxies étant des molécules, sans qu'il ne se produise probablement aucune collision d'étoiles. Mais on peut imaginer le spectacle grandiose qui s'offrirait à nous si on pouvait accélérer le temps. La galaxie d'Andromède, devenant de plus en plus grosse dans le ciel, au point de former comme une seconde Voie lactée. Puis les deux ne formant plus qu'une en fusionnant, et plus tard une galaxie qui s'éloigne lentement, peut-être la Voie lactée. En effet, lors du balai compliqué de 2 galaxies qui se croisent, on peut voir sur Internet des simulations montrant ces mouvements fluides, la plus grosse ayant un pouvoir d'attraction plus important, peut embarquer avec elle des étoiles capturées à sa sœur plus petite. Et comme notre Soleil est plutôt en périphérie de notre Voie lactée, il pourrait très bien nous faire un saut de galaxie, en changeant d'hôte lors de la collision.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Nous sommes avec Michel Favret qui présente sa 127e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie, donc avec le ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web, hein, comme j'ai dit, www.constellationsetgalaxiestoutaupluriel.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes, hein, difficile de les montrer à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour novembre d'ici la fin de la semaine. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère, parce que j'ai des petits problèmes de PC en ce moment. Avec le passage à l'heure d'été le week-end dernier, l'observation du ciel nocturne peut se pratiquer très tôt le soir, car en ce moment, le soleil se couche vers 18h et la nuit arrive vers 19h, et le ciel bien noir dès 19h30. Fin novembre, on aura gagné encore une demi-heure, avec le coucher vers 17h20 et la nuit vers 18h30. Bien que nous soyons en plein automne, comme je l'ai dit dans la rubrique précédente, la moitié ouest du ciel est encore peuplée par les constellations d'été qui partent progressivement se coucher et peuvent être situées à partir du triangle de l'été. Trois étoiles très brillantes qui dessinent cette grande figure géométrique pointent en bas. Deneb, la plus haute, pratiquement au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête. Vega, à l'ouest, et Altaïr, la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives du cygne, de la lyre et de l'aigle. Si le ciel est assez noir, on pourra distinguer le long du cygne et de l'aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, pratiquement dressé à la verticale. À l'est, ce sont les constellations de l'automne avec Pégase, bien reconnaissable à son grand carré, et dans le prolongement Andromède, puis les autres constellations dont je viens de parler. Elles montent dans le ciel au cours de la nuit, et Pégase arrive au sud vers 22h. Fin novembre, les constellations d'automne seront bien levées dès le début de nuit, y compris la baleine, avec Pégase approchant déjà au sud. Côté planète, seule Saturne est visible dans le ciel du soir. Dans les télescopes, elle se présente de manière inhabituelle, car ses anneaux sont très fermés en ce moment, presque vus sur la tranche, ce qui le fera disparaître quelques jours en cette fin de mois et début novembre. Cela ne se produit que tous les 15 ans environ. Je viens de parler des télescopes parce que je rappelle à nos auditeurs que des associations d'astronomie proposent au public de venir observer dans les télescopes. Je pense entre autres à Vega de Lanier, si je ne me trompe pas, à Vers, c'est tous les samedis. Et AG33, je pense que c'est le vendredi ou le samedi, j'ai un doute, au mémorial de la ferme de Richemont à Socat. J'en reviens aux planètes. Jupiter ne se lève qu'après 22h30. Ce sera 20h30 fin novembre, mais il faut patienter au moins une ou deux heures pour qu'il soit observable dans de meilleures conditions. Je rappelle à nos auditeurs que dans une simple paire de jumelles, on peut voir ses quatre principaux satellites dont les positions changent en quelques dizaines de minutes. Vénus, qu'on pouvait voir le matin ces dernières semaines, s'est beaucoup rapprochée du Soleil dans le ciel et ne se lève que vers 6h en ce moment, c'est-à-dire une heure et demie, avant le Soleil, ce qui ne permet de la voir presque que dans les lumières de l'aube et très basse. Et cela ne fera que s'aggraver pendant tout le mois de novembre où elle disparaîtra progressivement du ciel, jusqu'à ce qu'elles nous reviennent le soir, mais ce ne sera pas avant février. Mars et Mercure se couchent moins d'une heure après le Soleil en ce moment, ce qui les rend très difficiles à percevoir dans les lueurs du crépuscule, car ils ne sont pas très brillants. Ils se révéleront mieux dans quelques semaines. Comme chaque mois, la Lune produira une série de conjonctions en s'approchant des planètes, en commençant par ce samedi 1er novembre, où le soir, la grosse lune gibbeuse se rapproche de Saturne, les deux astres étant séparés d'environ la largeur de 4 doigts bras tendus. Le lendemain soir, ce sera assez similaire, sauf que la Lune sera passée de l'autre côté de la planète, à l'est au lieu de l'ouest. Une occasion de constater le déplacement assez rapide de notre satellite dans le ciel étoilé, contrairement à Saturne qui met presque 30 ans à effectuer une révolution complète. Le lundi 10, la Lune gibbeuse se lèvera avec Jupiter, mais pas avant 22h30. Il faudra ensuite patienter jusqu'au mardi 18 pour voir un fin croissant de lune accompagner Vénus dans les lueurs de l'aube. Et aussi le lendemain, mercredi 19, encore un peu plus près, mais très difficile à voir, car ce sera un croissant très très fin, donc très peu lumineux. Et bien sûr, ces jours-ci, nous avons encore 2 comètes visibles dans le ciel en début de nuit. Je les ai personnellement observées depuis le 9 octobre, mais c'est vers le 19-20, donc le week-end, pas le dernier mais le précédent, qu'elles devaient être les plus belles, puisque depuis, elles s'éloignent de la Terre. Mais malheureusement, c'est juste quand le mauvais temps nous est tombé dessus. J'ai eu la chance, grâce à une éclaircie imprévue en début de nuit, de les observer le jeudi 23. C'est 2025 A16 Lemon, la plus brillante des deux, était perceptible faiblement à l'œil nu, du côté du Bouvier, et aux jumelles, sa queue était évidente. Sur les photos, elle est vraiment très longue, dans les 6 à 8 degrés, soit presque la largeur de toute la main bras tendu. La seconde, C2025 R2 Swan, n'était visible qu'aux jumelles, entre l'aigle et le capricorne, mais on ne voyait pas de queue, qui est d'ailleurs très discrète aussi sur les photos. Si la météo s'améliorait dans les prochains jours, on pourrait espérer encore les voir, notamment Lemon, qui continue à s'approcher du soleil jusqu'au 8 novembre. Elle est en train de traverser Ophiuchus, le serpentaire, alors que Swan est en train de traverser le Verseau. On trouvera des cartes indiquant leur position jour après jour sur mon site web www.constellationsetgalaxies.org. À partir du 11 novembre, on pourra aussi voir passer l'ISS, la Station Spatiale Internationale, le soir dans le ciel. On trouvera les horaires aussi sur mon site, toujours dans la page « Ciel du mois » de la rubrique « Astronomie ». Et sauf imprévu, notre prochaine chronique devrait avoir lieu le mercredi 26 novembre.
Voilà, c'est bien noté. Merci Michel. Un dernier mot après cette belle chronique.
Si on a un petit peu de temps, je pourrais juste parler des problèmes de météo avec l'astronomie.
Bon, mais je vous en prie, on a un petit peu de
parce
temps.
Que quand il ne fait pas beau, bien évidemment, on ne peut pas voir le ciel étoilé ni tous les objets qui se trouvent dedans. Et quand on déplore ce genre de désagrément, on va dire, je renvoie souvent, et nos auditeurs peuvent aller consulter sur Internet, en particulier sur Wikipédia, le cas d'un certain Le Gentil. Le Gentil était le directeur de l'Observatoire de Paris. Et au XVIIIe siècle, il était important d'observer certains phénomènes comme les transits de Vénus, c'est-à-dire les moments où Vénus passe devant le Soleil, ce qui est assez rare. Et pour ça permettait de mesurer les distances dans le système solaire. À partir du décalage, quand on n'est pas au même endroit sur Terre, le phénomène ne se produit pas exactement au même moment. Et si on mesure très précisément ce délai, ça permet, par triangulation, si on peut dire, de calculer la distance de la Terre à Vénus et de la Terre au Soleil. Le Gentil part en Inde, alors que d'autres astronomes partent du côté de l'Amérique du Sud. Il faut imaginer qu'à l'époque, le voyage est assez long. Marine à voile, il faut contourner toute l'Afrique, il n'y avait pas de canal de Suez. Et il met des mois à arriver en Inde. Malheureusement, à cette époque, l'Inde était une possession britannique et on était un petit peu fâché avec les Anglais. Les Anglais ne lui permettent pas de débarquer pour faire l'observation. Il essaye depuis le bateau, mais avec les mouvements de la houle et tout ça, c'est impossible. Donc il rate l'observation. Mais il sait que si des fois les transits de Vénus sont écartés de plus d'un siècle, ils sont produits deux de suite à 8 ans d'intervalle. Donc il décide de rester 8 ans de plus en Inde. Les choses s'arrangent avec les Anglais, il peut s'installer, il crée un observatoire, il fait un petit peu de cartographie pour s'occuper pendant l'intervalle. Et 2 jours avant le transit, il vérifie que tout fonctionne bien dans son observatoire, il n'y a aucun problème. Manque de chance. Le jour de l'observation, il y a des nuages, il ne voit rien. Du coup, il revient en France, toute une série de péripéties. Il a un naufrage, il se retrouve à Madagascar, il attrape une sale maladie dont il a failli mourir. Et finalement, quand il arrive à revenir en France, il est parti depuis plus de 10 ans. Mais tout le monde le croyait mort, car aucune de ses lettres n'était revenue jusqu'en France. Du coup, sa femme s'était remariée, ses enfants avaient partagé l'héritage, on avait nommé quelqu'un d'autre à la direction de l'Observatoire de Paris. Donc quand on voit le cas de Le Gentil, on peut se dire que quelques nuages qui nous empêchent de voir 2 comètes, c'est pas un drame, on peut se débrouiller avec ça, c'est pas si méchant que ça.
Allez, merci pour cette belle histoire. Voilà, merci Michel Favre. On se retrouve donc le 26 novembre pour une nouvelle chronique. Et on rappelle qu'on peut retrouver eh bien, toutes ces chroniques archivées sur le site www.constellationsetgalaxies.org. À très vite, Michel.
Au revoir.
À bientôt.